Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Pierre Nora, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éditeur et historien, et après avoir beaucoup édité les autres, il semble que vous avez édité 700 livres, donc des autres, vous finissez par vous accorder un peu de temps à vous-même, à votre propre travail d'historien, et donc vous faites de l'auto-édition, si je peux me permettre cette expression, donc en vous éditant vous-même. Donc, trois livres sont deux présents et un annoncé, donc Historien public, que nous verrons dans une autre émission, qui est une sorte d'autobiographie intellectuelle, Présent, Nation, Mémoire, donc qui accompagne, et c'est sur ce livre-là que nous allons nous attarder, qui accompagne donc les lieux de mémoire, qui est cette gigantesque entreprise menée par vous, et puis Recherche de la France, qui est à paraître, et qui sera, semble-t-il, un essai sur la République et l'identité française. Donc, concentrons-nous, si vous le voulez bien, sur ce deuxième volume, donc Présent, Nation, Mémoire, qui vient de paraître, et qui donc accompagne, prolonge, esquisse des dialogues autour de cette entreprise, donc de lieux de mémoire. Lieux de mémoire, donc, qui sont un ensemble de volumes, 7 en tout, divisés en 3 volets, La République, Paris en 84, La Nation en 86, et La France en 92.
Tout est là,
justement, c'est un lapsus révélateur. Mais Les France, effectivement, paru en 92, en 3 volumes. Et semble-t-il, il devait y avoir, ou il y aura, je ne sais pas, un quatrième volume qui devait s'intituler « L'amour de la France ».
Non, pas du tout.
J'ai lu ça dans...
Non, pas du tout. J'avais pensé, pour terminer les lieux de mémoire, en conclusion, en quelque sorte, de mettre en abîme, si je puis dire, l'expression « L'amour de la France
»,
et d'en faire à la fois l'histoire et les transformations. Mais j'avais eu peur, précisément, qu'il y ait eu malentendu et qu'on prenne au premier degré comme une déclaration d'amour à la France.
Voilà.
Encore qu'il est vrai que la plupart des grandes histoires de France s'achèvent par quelque chose qui est une manière de l'être d'amour. Et on se souvient en particulier de la magnifique fin de la grande préface de Michelet de 1869 à son Histoire de France, dont je ne me souviens plus exactement, mais « Il me faut te quitter ici, et toi, ma grande France, j'ai plus profité, comment n'ai-je pas plus profité en moi ? Ah, c'est que pour te refaire, il a fallu boire tant de vipères et tant de rois, et mon plus grand chagrin, c'est qu'il faut te quitter ici. » C'est le dernier mot de Michelet de sa grande préface. Et le premier mot de Brodel pour « Dans l'identité de la France », c'est « J'ai passionnément aimé la France ». Donc c'est vrai, d'une certaine façon, vous n'avez pas tort, mais je voulais reprendre justement, depuis le XIIIe siècle, l'idée de l'amour de la France, et puis j'ai eu peur, comme je vous ai dit, que ce soit pris au premier degré.
Alors, cette entreprise, donc, est compréhensible, ou vous l'accompagnez, donc, par ce présent Nation Mémoire, d'un certain nombre de dialogues que vous esquissez, ou d'interrogations qui ont pu avoir lieu, ou qui ont eu lieu autour de cette énorme entreprise, donc, que sont les lieux de mémoire. Donc, s'agit-il pour vous de redéfinir sur de nouvelles bases, en passant par les sciences sociales, le roman national ? S'agit-il d'enterrer la France, comme on vous l'a dit, de célébrer d'une certaine façon l'éclatement mémoriel de la France ? S'agit-il d'exalter au contraire le parfum mémoriel et sentimental de la France ? Bref, il y a eu un certain nombre d'interrogations et de questions qui ont été posées autour de cela.
À propos des lieux de mémoire, vous
voulez dire. À propos des lieux de mémoire seulement, excusez-moi.
Mais ça, je peux...
Absolument.
Vous permettez
que
je réponds tout de suite.
Absolument, au contraire.
C'est-à-dire qu'en effet, vous mettez le doigt sur quelque chose qui m'a toujours un peu fait rire. C'est-à-dire que cette entreprise a tantôt été taxée d'enterrement de la France, comme vous dites, d'inventaire après décès, et d'autre part, d'illustration abusive du roman national, entre guillemets, c'est-à-dire d'exaltation quasi-nationaliste de la mythologie française. Alors, j'ai passé à la fois pour le fossoyeur et pour l'exaltateur, si j'ose dire d'un mot. Ça n'est ni l'un ni l'autre, bien sûr. C'est une attitude d'historien qui, justement, prend ses distances à travers ses expressions « lieu de mémoire » et qui a eu, je pense, l'intérêt d'une part de faire droit à la montée en puissance de ce thème de la mémoire dans les années 75-80, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on va revenir probablement,
volontiers,
et en même temps d'annexer ce thème de la mémoire à l'interprétation proprement historique et historienne. Et pour dire simplement, il m'avait paru beaucoup plus intéressant, moi qui voulais étudier le sentiment national, le rapport à la nation et à la France, de sortir de l'histoire des idées, tout simplement, à travers la littérature ou à travers les épisodes historiques, et de prendre ce que j'ai appelé des lieux, c'est-à-dire des objets, des sujets, des entités où s'incarnait quelque chose du sentiment national et du coup de ce que j'ai appelé la mémoire de la France. Voilà. Alors j'ai commencé par des objets presque évidents comme les cimetières, comme le Panthéon, c'est-à-dire en fait ce qui était des mémoriaux au sens premier du mot, pour essayer de proche en proche de voir quels sédiments de mémoire portaient des objets aussi différents que des commémorations, des noms de rues, des fêtes, des emblèmes, des devises, et même au-delà, des institutions, comme l'Académie française en est une profondément, ou des divisions administratives comme le département, ou des divisions temporelles comme la génération, qui portaient quelque chose jusque au symbole, puisque je me suis aperçu en travaillant que des symboles aussi évidents que la Marseillaise ou que
le drapeau,
exactement, n'avait pas véritablement d'historien au sens exact du mot, puisque c'était le musicographe de la garde républicaine qui était le meilleur historien de la Marseillaise, et que s'il n'y avait guère que des généraux en retraite de la guerre de 14 pour s'être intéressé au drapeau français. Voilà. Alors, c'est ça le premier mouvement, et qui n'a rien à voir, bien entendu, ni avec un enterrement ou une volonté d'enterrement, ni avec une forme de volonté d'exaltation. Et les deux sont implicitement contenus. On peut le lire d'une manière ou d'une autre.
Enfin, le sentiment qu'on a à la lecture donc, de Présent Nation Mémoire, qui accompagne donc ce formidable travail.
Voulez-vous que je le précise
d'un
tout petit mot ?
Absolument au contraire.
Eh bien, la vérité, c'est que l'usage me donne le sentiment que les lieux de mémoire ont été consultés pour l'intérêt intrinsèque de chacun des articles, des 130 articles que tant de collaborateurs ont bien voulu donner à cette série. Et que le tissu conjonctif, la problématique qui portait l'ensemble, le jugement d'époque et la vision rétrospective du passé national que supposait l'entreprise des lieux de mémoire était un peu passé inaperçu. Et que je souhaitais le faire ressortir en quelque sorte, si bien qu'effectivement, Présent Nation Mémoire, d'une part, peut paraître une introduction éclairante à l'ensemble de la problématique du lieu de mémoire, et je crois à l'ambition de dépasser cette simple introduction au lieu de mémoire pour caractériser la constellation dominante et l'idéologie en quelque sorte qui préside à notre conscience historique contemporaine, définie un peu par ces trois mots que j'expliquerai un peu davantage si vous me le demandez. Présent, nation, mémoire.
Alors, ce qui ressort de ce que vous dites et ce qui ressort de ce que vous écrivez, c'est qu'il semble que vous avez voulu incarner, mettre en chair, si on veut, l'idée de nation, l'idée de république, l'idée de France. Et ce qui semble un tout petit peu, j'irais jusqu'au mot tragique, c'est que quand vous relisez aujourd'hui, je pense à un texte donc qui est dans ce Présent Nation Mémoire, quand vous relisez donc ce travail aujourd'hui, article qui s'appelle « Les lieux de mémoire » ou « Comment ils m'ont échappé », on a le sentiment que ce que vous souhaitiez faire au début, l'idée de remettre dans une mémoire vivante, de constater que l'histoire d'antan, celle de Lavis en particulier, n'était plus de cours et ne pouvait plus tenir, et que donc il importait que la mémoire réinvestisse, remette de l'esprit, si on veut, à l'intérieur de cela, que d'une certaine façon, ce dessin-là vous a d'une certaine façon échappé. Et pour vous laisser répondre à cela, je me permettrai de vous citer, qui est donc page 400 de Présent Nation Mémoire, « Le combat que nous avons à quelques-uns, dans ma génération, pour imposer la légitimité d'une histoire toute contemporaine de la France, René Raymond en tête, portait dans ses flancs la révolution de la mémoire. » Alors comment est-ce que vous vous entendez cette conscience qui me semble un peu tragique chez vous de ce dessin qui a été le vôtre et qui peut-être n'a pas été complètement compris ou réutilisé par certains d'une autre manière, pour une autre mémoire, et ce constat que vous faites à la fin de votre livre.
Il y a, je crois, deux fils conducteurs qui se rejoignent à l'intérieur de ce propos très juste. Il y a, d'une part, la montée en puissance du sentiment du présent et qui est en effet lié aussi à la montée en puissance de cette histoire contemporaine. D'un mot, quand dans les années 70, j'ai commencé à faire de l'histoire, l'histoire contemporaine apparaissait comme la parente pauvre de l'histoire noble qui était l'histoire du Moyen-Âge ou des temps modernes. Et il fallait vraiment ne pas savoir lire une charte, ne s'intéresser qu'au journalisme contemporain pour faire de l'histoire contemporaine d'une certaine façon. En 30 ou 40 ans, ça s'est beaucoup transformé. Et en effet, des gens comme René Raymond ou moi ont bataillé pour donner de la légitimité et de la dignité à l'histoire du temps présent, du temps, l'histoire toute contemporaine. Ma différence, je crois, peut-être avec René Raymond, c'est que Raymond se battait pour la légitimité d'une histoire contemporaine au sens linéaire du mot, c'est-à-dire qu'une histoire qui ne s'arrêterait pas à 1918 ou à 1945, mais pourrait se faire avec d'autres moyens depuis. Moi, je crois justement que je suis, j'allais dire, le contemporain d'une époque où l'histoire contemporaine s'est métamorphosée pour devenir autre chose que la suite temporelle du temps passé, mais une histoire autre que j'ai essayé de caractériser comme un présent historique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que dans une histoire contemporaine de type classique, il y a une présence du passé, il y a une continuité de ce passé à l'avenir que l'on peut préparer ou prévoir, et que le présent n'est, dans cette conception un peu linéaire et traditionnelle du temps, qu'un trait d'union. Et l'historien, du coup, celui qui, dans le présent, est l'incarnation de la parole du passé, et le transmetteur, au fond, du passé à l'avenir. Je pense que ce que nous vivons est la rupture de ce sentiment linéaire d'un passé, d'un présent presque inexistant et d'un futur. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons vécu depuis les années 70 environ, avec un obscurcissement de plus en plus profond de ce que pourrait être l'avenir. Nous n'avons plus ni les instruments conceptuels, ni le sentiment d'une continuité, d'un progrès, d'un sentiment révolutionnaire, d'un retour au temps passé. Bref, nous n'avons plus le schéma qui nous permettrait de projeter et de nous projeter dans l'avenir. C'est ce qui m'a permis de dire que nous sommes sûrs d'avoir un futur, mais qu'on n'est pas sûr d'avoir un avenir. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il sera. Et cet sentiment d'obscurité, si vous voulez, d'incertitude, porteuse d'angoisse, bien sûr, a pour symétrique, je pense, un éloignement corrélatif du passé, dont nous nous sentons de plus en plus orphelins, je dirais, et toujours dans ces mêmes années, où le sentiment d'une histoire perdue, si j'ose dire, d'un passé, nous a accablés, que nous ne pouvions plus le retrouver qu'à travers des instruments indirects qui n'étaient plus le récit, l'écriture, le lien avec ce passé, mais par des méthodologies un peu plus complexes de structure démographique, d'analyse économique en profondeur. Bref, que nous n'avions plus avec ce passé un rapport de plein pied, que nous n'étions plus directement liés à ce passé. Et ça se traduit par une difficulté du message pédagogique à vos enfants. Quel type d'histoire va-t-on leur apprendre ? D'ailleurs, ils en apprennent très peu, etc., etc. Et cet effacement corrélatif du futur et du passé a pour conséquence mécanique de faire monter en puissance ce sentiment du présent, qui était en effet évanescent, et lui donner un poids d'intelligibilité corroboré par la montée en puissance des médias, corroboré par le flot informatif et le poids de ce presque immédiat et pour tout dire de ce tragique XXe siècle dont nous avons vécu la fin, et que tout cela a pour, en même temps, corréla, que ce présent même se charge d'une anticipation historique, et que c'est en fonction de cette anticipation obscure et difficile, en quelque sorte, du futur, que le présent devient une sorte, ce que j'ai appelé, de présent historique. Et, pour dire vite, l'ancienne conception un peu linéaire et traditionnelle du temps était productrice d'une histoire. Tandis que je pense que cette montée en puissance du présent s'accompagne d'un rapport au passé qui n'est pas d'ordre strictement historique, mais beaucoup plus mémoriel. Mais beaucoup plus fait d'un choix affectif, d'une projection de soi dans le passé, bref, d'un type de rapport au passé très différent de celui dont nous avions l'habitude. Et c'est ce jugement-là qui m'a amené à réfléchir aux lieux de mémoire, comme des buts témoins, en quelque sorte, comme des objets véhiculés par le temps dont nous avions à retrouver l'histoire et l'identité. Et que tous ces objets, je ne cherche pas à les faire revivre avec la nostalgie, si vous voulez, le désir national de leur redonner un contenu, mais je constate qu'ils survivent entre une forme d'histoire encore évanescente et de mémoire prégnante. Et que c'est cette ambiguïté, en quelque sorte, du temps entre histoire et mémoire, et d'ailleurs c'est le titre que j'ai donné à l'introduction générale des lieux de mémoire, entre histoire et mémoire, ou entre, si on préfère, j'aurais pu dire mémoire et histoire. Eh bien c'est cet entre-deux, en quelque sorte, dans lesquels les lieux de mémoire vivent. Voilà, alors je pense que ce mot présent, si vous voulez, se justifie dans présent, nation, mémoire, c'est que le temps d'autrefois appelait l'histoire et le temps d'aujourd'hui appelle la mémoire. Alors on peut évidemment se demander pourquoi nation ? Eh bien tout simplement, parce que ces trois mots n'ont pas le même sens, ni la même portée. Eh bien nation, tout simplement d'abord parce que j'ai été amené à être un historien de la nation, et en plus parce que c'est le cadre naturel du développement de la mémoire collective. On peut dire que la mémoire collective, c'est d'abord la famille, c'est le proche. Mais même la famille s'inscrit dans la nation, c'est-à-dire que vous parlez le français, nous le parlons tous. Vous vivez dans un pays qui a ses paysages, sa manière, ses traditions, même si elles s'effacent, ses lois, pour commencer, que vous y soyez né ou que vous l'ayez choisi et que vous soyez naturalisé. Donc, présent, nation, mémoire me paraît encore une fois être les trois pôles de cette constellation hégémonique et spécifique de notre temps. Voilà.
Alors, je voudrais juste reprendre pour voir si vous trouvez que la lecture que j'ai pu en faire de votre texte est conforme ou pas à ce que vous ressentez sur la notion du tragique.
Oui.
Pourquoi ?
C'est pas
faux.
Parce
que vous avez bien dit, effectivement, que vous sentez, et sans doute bien avant beaucoup d'autres, que quelque chose est en train de s'opérer, vous venez de le développer juste avant, sur le régime de l'histoire. C'est ce que François Hartog appelle le présentisme, c'est-à-dire que le passé et le présent, d'une certaine façon, s'étiolent, s'éloignent.
Hein, et se compliquent, en tous les cas. Oui, et s'éloignent, vous avez raison.
S'éloignent, c'est-à-dire qu'il n'y a,
vous avez raison.
Il n'y a plus d'avenir d'une certaine façon.
S'obscurcit.
Voilà, et le passé devient de plus en plus dépassé, sinon éloigné.
Bon. Formulé.
Et donc, quelque chose s'opère en même temps, dans les mêmes moments, avec la mémoire. Donc il y a une mauvaise mémoire et une bonne mémoire. Et il me semble, sans doute je me trompe, qu'il y a quelque chose qui est l'armature secrète de votre... et qui renvoie à votre amour de la vis, qui fut l'objet de vos premiers travaux, qui est de reformuler une histoire de France en réintégrant la bonne mémoire et en laissant la mauvaise mémoire de côté. La bonne mémoire, c'est la mémoire spirituelle, si on veut, nationale, voilà, qui permet de redonner goût au présent et à l'avenir. Et la mauvaise, c'est celle qui va finir peut-être, sans doute, par submerger l'entreprise et submerger l'histoire et vous submerger à votre corps défendant. C'est la mémoire minoritaire des minorités, des mémoires minoritaires récriminantes. Donc, est-ce que aujourd'hui, quand je lis ce texte de 2008, quand vous regardez tout cela dans le rétroviseur, est-ce qu'il n'y a pas en vous ce sentiment un peu tragique d'avoir enfanté quelque chose d'un peu monstrueux qui a fini par vous dévorer.
Oui, je suis obligé de dire un oui modeste à cette phrase très ambitieuse que vous venez de prononcer et à laquelle je souscris secrètement, si j'ose dire. Je dis secrètement parce que, en historien, j'ai vu les choses un tout petit peu, si vous voulez, avec des nuances par rapport à ce que vous dites. Ces trois termes, république, nation, les France, qui sont les trois volets des lieux de mémoire et qui ont quelque chose de très français d'une part, puisque république, nation, France ne se retrouveraient pas dans un autre pays, pas plus que l'expression exactement lieu de mémoire, qui est presque intraduisible. J'en ai eu spontanément l'organisation de cette entreprise. Et moi-même, je me suis demandé après, mais pourquoi ? Or, il m'a paru vite évident que c'était justement la déconstruction, entre guillemets, de ce type d'histoire dont, effectivement, vous avez prononcé le nom d'Ernest Lavis, grand historien de la fin du XIXe siècle et qui est mort en 1922 après avoir écrit deux types de livres, si j'ose dire. D'une part, un petit manuel qui a été presque le petit Lavis, la Bible des classes jusqu'en 1918, mais aussi jusqu'en 1940 ou presque. Pas unique, on ne peut pas parler de monopole, mais d'hégémonie de ce petit livre, qui était très nationaliste et qui, au fond, a appris la France à des millions et des millions de Français, dont en particulier, au fond, l'a armé la France de Verdun, si j'ose dire. Et puis d'autre part, il a été l'auteur, le directeur de la grande histoire de France en 27 volumes, qui, entre 1902-3 et 1922, a broyé, en quelque sorte, tout le savoir scientifique que l'histoire, depuis 20 ans, était en train d'accumuler sur la base des archives et d'une histoire proprement scientifique, pour l'organiser dans un grand récit national dont on a pu dire qu'il constituait le roman national. Et que tout l'objectif de ce récit était d'unir très étroitement, intellectuellement, politiquement, nationalement, la France, l'idée de la France, au régime républicain définitif et à l'identification à la nation française. Donc il y avait quelque chose d'extraordinairement cohérent depuis la classe élémentaire jusqu'à ce qu'il a renouvelé d'agrégation, puisque c'est lui qui les a, comme professeur à la Sorbonne, légiféré les épreuves de l'agrégation. Il a en effet établi le grand récit national qu'on a pu appeler un roman. Et au fond, spontanément, j'ai constaté qu'était cassée cette unité.
Oui, et à la fois, donc, pour la petite histoire, parce que vous racontez dans Présent Nation Mémoire les liens qui vous unissent à Lavis. Vous dites qu'en 1962, vous avez écrit un texte, enfin plus qu'un texte, sur Ernest Lavis et la formation du sentiment national. Et vous mettez d'une certaine façon Lavis comme le père spirituel de cette entreprise en disant que les lieux de mémoire...
Non, c'est Michelet que je mets comme père spirituel. Lavis, je le mets comme une sorte de... comment dire, d'opérateur stratégique plutôt.
D'opérateur stratégique, et vous dites que ces lieux de mémoire sont à la fois une entreprise anti-lavicienne et en même temps toute lavicienne. Donc
oui.
Que vous reformulez d'une certaine façon au regard des sciences humaines,
vous avez raison,
etc. Donc il y a quelque chose de prolongement, dans le prolongement, voilà, après.
Vous avez raison, et c'est ce qui fait que d'ailleurs ce mot de Lavis m'est resté comme, comment dire, attaché, ou presque. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire en quelles circonstances j'ai découvert Lavis, que je raconte d'ailleurs là-dedans.
Oui, oui.
C'est que c'était pendant la guerre d'Algérie, où j'étais à Oran, et à la bibliothèque municipale d'Oran, où je fouillais, je tombe sur ce petit manuel que je ne connaissais pas, et qui m'a paru, et j'ai regardé ça comme un ethnologue regarderait une tribu. Il parlait de l'Algérie, nos missionnaires, nos explorateurs, nos hommes d'affaires, nos... etc., alors qu'on était en pleine guerre d'Algérie. Et cette étrangeté entre le décalage de la réalité et la manière dont en 1900 ou 1890 on pouvait en rendre compte m'a paru mériter qu'on s'y intéresse. Alors du coup, je suis allé, figurez-vous, j'ai voulu m'intéresser à ce manuel et c'était une époque où on ne s'intéressait pas tellement, on ne faisait pas d'histoire culturelle, plutôt d'histoire économique et sociale. Je suis allé aux archives chez Leclerc, chez Colin, pour demander s'ils avaient des archives sur ce petit manuel. Et au bout d'un certain temps, ils m'ont sorti une correspondance stupéfiante où les premières versions de ce manuel dans les années 1880 avaient été refusées par Colin, Max Leclerc qui le dirigeait, pour livres beaucoup trop impérialistes, enfin, du Second Empire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai commencé à m'intéresser à ce garçon, enfin à ce bonhomme, Ernest Lavis, et j'ai découvert qu'il avait été le précepteur du prince impérial dans la fin du Second Empire, qui fréquentait donc tous les jours les Tuileries et voyait le prince Napoléon, tout simplement parce que le fils du directeur du ministère de l'Instruction publique, Victor Duruy, à l'époque, avait un fils qui était à l'école normale et qui était l'ami, le condisciple de ce jeune Lavis, type laborieux, sérieux, que le fils Duruy avait recommandé au père, qui avait recommandé à l'empereur. Et alors, il est resté extraordinairement lié à l'Empire. Et il avait 20 ans, 22 ans, quelle carrière n'aurait-il pas eu si l'Empire avait continué? Donc il fait vraiment partie de ces gens que le début de que la Commune, que la fin de l'Empire, que les débuts de la République, après Rabouspoil. Et il est parti en Allemagne, comme beaucoup de cette génération, qui voulait intellectuellement apprendre de l'Allemagne les secrets de la victoire scientifique et quasi-militaire. Et donc, toute sa vie a été marquée par ça. Alors, ça m'a paru extrêmement intéressant, si vous voulez. Et du coup, je me suis attaché à ce bonhomme et j'ai fait une histoire de son petit manuel, puis une histoire de sa grande histoire. Et du coup, mon nom est resté attaché à cet homme que j'ai, en quelque sorte, exhumé à beaucoup d'égards. Mais j'y suis pas du tout attaché, si vous voulez, pas plus que... Simplement, j'ai trouvé ça très intéressant.
Juste pour continuer, si vous le voulez bien,
allez-y.
Sur ce qui m'a semblé...
Je vous en prie.
Et vous sembliez abonder dans ce sens-là. Donc
ce qui a changé.
Ce qui a changé et le sentiment du tragique que vous avez, vous, maintenant...
Voilà. Alors ça, c'est le deuxième fil, au fond, voilà, que je discernais dans votre question préalable. C'est ce fil de la mémoire. À savoir que, justement, au moment où j'ai commencé, je constatais deux choses du type mémoriel. Je constatais, dans ces années 70, des mémoires traditionnelles, et en particulier la mémoire paysanne, qui avait été le socle de la stabilité française, puisque jusqu'au lendemain de la Libération, il y avait encore près de la moitié de la population qui vivait dans le régime rural et dans la campagne. Et que 1975 est précisément la date où la population engagée dans l'agriculture tombe au-dessous de 10%, et ce ne sont plus d'ailleurs des paysans, mais pour beaucoup des agriculteurs, ce qui n'est pas la même chose. Donc il s'est passé une transformation du socle social qui entraînait beaucoup du socle mental, puisque cette paysannerie était chrétienne, et que c'est à ce moment-là que la population chrétienne s'anémie et que le christianisme se transforme profondément, qu'on va avoir aussi les influences et les retombées de Vatican II dans cette période, et qu'un changement d'urbanisation s'opère très très violent. Bref, que la croissance tardive industrielle de la France a entraîné une disparition globale des façons de vivre classiques de ce que l'on peut appeler une mémoire, c'est-à-dire les traditions dans lesquelles on vivait. Bon, alors ça, c'est une chose. Et l'autre chose qui se télescope avec cette mémoire traditionnelle, c'était, dans les mêmes années, la montée, si j'ose dire, en puissance, pardonnez-moi cette expression dont j'abuse un peu pour exprimer la montée d'un phénomène neuf, et qui consistait dans l'ensemble des minorités nationales, qu'elles soient les femmes, que ce soit des minorités religieuses comme les juifs, que ce soit des minorités provinciales comme la France qui était tout d'un coup pénétrée par la coopérative, enfin par le, bon, le ou les communications, que ce soit les Corses, minorités les ouvrières,
les ouvriers,
les régionales, que ce soit les ouvriers, que toutes ces minorités commençaient très largement à entrer dans la vie commune. Et que ce qu'ils avaient, chacune de ces minorités, ce qu'elles avaient vécu dans le silence de la famille, de la région, une mémoire privée pour tout dire, s'insérait dans la mémoire publique et réclamait d'une certaine façon son inscription dans l'ensemble de la mémoire nationale. Alors c'est deux choses voilà, un petit peu différentes, si vous voulez. Mais c'était deux formes de mémoire. Une mémoire traditionnelle qui ne pouvait plus revivre que sous la forme d'une reconstitution ethnologique et historique, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de mémoire paysanne. mais aussi, pour prendre à l'autre bout, c'est le moment où on a, mettons, commencé à parler de mémoire juive, alors qu'au XIXe siècle, on n'aurait jamais parlé de mémoire juive, parce que la communauté juive, et on n'aurait pas non plus parlé de communauté, elle s'est transformée en communauté, c'est une date très précise, c'est l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, qui a transformé une communauté, entre guillemets, anémiée, fondue, et se faisant tout à fait une religion privée par rapport à la synagogue, mais pour le reste, on n'était pas juifs dans la vie publique, si j'ose dire, ou très peu, en une sorte de communauté ethnologique qui a pris conscience d'elle-même comme telle, et qui, la Shoah aidant, a pris conscience de sa singularité, quitte à la reprojeter dans le passé, en quelque sorte, et a commencé à reconstituer ce qu'ils ont appelé une mémoire, disons juive, mais c'est la même chose pour les femmes, c'est la même chose pour les ouvriers, c'est la même chose pour, voilà, pour toutes les minorités traditionnelles. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est ça que j'ai essayé au moment des lieux de mémoire, de sentir, de saisir. Mais vous avez totalement raison de dire que depuis 30 ans, la mémoire a beaucoup changé. Et que de revendications, au fond, ce qu'on appelait mémoire, c'était de l'histoire. C'était une histoire privée qui demandait à être reconnue par l'histoire publique. Voilà, vous, si vous êtes d'accord avec cette expression. Et qu'elle s'est tellement développée en 30 ans que précisément, cette mémoire publique a comme été morcelée, rongée, à beaucoup d'égards dévorés par ces mémoires privées qui se sont en quelque sorte appropriées la mémoire publique et qui ont reconstitué l'ensemble de la vie publique à partir de leur mémoire individuelle.
Oui, voilà. Alors, allons même plus loin, si vous le permettez. Ces mémoires, c'est pour ça que je parle de tragique, c'est que d'une certaine façon, vous avez voulu réintégrer ces mémoires-là à l'intérieur d'un roman national redéfini, réacceptable. Et comme vous le dites, ces mémoires-là
ont bouffé l'histoire.
On finit par effectivement ronger, phagocyter l'histoire et même à se retourner contre la nation,
bien
à
sûr,
accuser la nation d'avoir opprimé ceci, contraint ceci. Etc.
Voilà, c'est que la mémoire a changé complètement. Autrefois, en effet, c'était la récupération d'une histoire privée, particulière, familiale ou sexuelle, enfin vous voyez, rendue publique. Tandis qu'au fur et à mesure des années, c'est devenu une forme d'identité.
Voilà. Identité opposée.
Voilà.
Qui parfois revendicatrice, est opposée.
Revendicatrice.
Revendicatrice.
Et, même quelquefois terroriste. Ou... Et que la mémoire elle-même a du coup un peu beaucoup changé de sens. Elle est devenue... Est-ce qu'on peut encore parler de mémoire ? À beaucoup d'égards, c'est un instrument de presque de chantage sur le, ouais, sur le public. Ça n'a plus grand-chose à voir souvent avec ce qu'on peut appeler mémoire, qui était plutôt le silence d'une histoire devant laquelle on avait plutôt du recueillement, presque, si j'ose dire, le souci de quelque chose de fragile à préserver. Maintenant, c'est quelque chose de massif à imposer, ce qui est un peu différent.
Et ce qui dilate, ce qui dilue,
oui,
l'identité nationale.
Ben, je pense que même maintenant, ce qu'on appelle identité nationale, et Dieu sait si le gouvernement a essayé de faire revivre cette notion, elle est le contre-coup de ces mémoires, de ces régimes des identités particulières qui rejaillissent sur l'ensemble national pour qu'on parle d'identité nationale. Je crois toujours qu'il y a eu de l'identité nationale, je ne récuse pas le mot, mais pas dans ce sens, ou du moins il faut en comprendre les subtilités.
Alors pour terminer, je voudrais essayer de vous réconcilier avec Paul Ricoeur. Vous avez dans ce texte-là un dialogue avec lui, de haute intelligence. Vous dites que c'est un homme de dialogue, qu'il incite au dialogue. Bon, et donc, effectivement, il a fait ce travail. Bon. Et il y a beaucoup de points d'accord entre vous. Il y a juste un point qui semble esquisser un désaccord. Et nous sommes en 2002. Nous sommes donc maintenant 10 ans après. Et donc, ce point de désaccord, c'est lui dit, et vous me reprenez si je me trompe, qu'il importe une certaine façon de sortir de l'histoire pour lui permettre de se réconcilier avec elle-même. Et vous vous dites, non, il importe, en tant qu'historien que vous êtes, de l'intérieur de l'histoire, de canaliser, de reprendre, de retransformer d'une certaine façon l'histoire, la mémoire, et de la remettre dans le bon chemin. Est-ce que vous considérez 10 ans après que ce qu'il disait, c'est-à-dire ce passage par autre chose, cette sortie de l'histoire pour réconcilier l'histoire avec elle-même, la nation avec sa mémoire, la mémoire avec quelque chose de cohérent et non pas de fragmenté, suppose ou supposerait, comme lui-même y incite, qu'il y ait ce travail de pardon, de réconciliation, en dehors de l'histoire, pour que l'histoire puisse être vecteur d'unité, de conciliation et non pas de division.
Oui, ce sont des notions toujours fragiles et très complexes que nous sommes en train de manipuler.
De façon très rapide.
De façon très rapide, vous avez tout à fait raison et vous le faites très bien. Mais ce qui nous séparait, je ne dis pas nous divisait, visiblement, d'une façon anecdotique, bon, Ricoeur a fait un grand livre sur l'histoire qui s'appelle « La mémoire, l'histoire, l'oubli ». Et on voit bien que la dialectique de ces trois termes, chez lui, est dominée par une conscience extra-historique, par une conscience à la fois religieuse et éthique, qui porte une marque très lourde de la Shoah et d'une sorte de culpabilité chrétienne que la mémoire a assumé, a transformé pour trouver ce qu'il appelle la juste mémoire, notion dont il fait un grand usage. Et on arrive à la juste mémoire pour lui par ce qu'il appelle un travail de mémoire qu'il veut substituer à l'idée du devoir de mémoire. Alors, il partageait avec moi le sentiment profond d'un trop de mémoire, précisément, de ce que je veux, de cela, d'un abus des commémorations, d'un usage illimité, abusif, du bon mémoire. Tout cela, nous le partagions. Ce qui, en effet, nous séparait, c'est cette vision spiritualiste, chrétienne, éthique, qu'il pouvait avoir de la mémoire, et qui l'amenait, à mon sens, à avoir une définition extra-temporelle de la mémoire et de pouvoir définir de la même manière la mémoire depuis l'Antiquité, depuis Aristote et Platon, jusqu'à aujourd'hui, comme si ce qu'on appelait mémoire était la même chose à chaque époque. Or, je suis, si j'ose dire, intra-historien et je ne vois à la mémoire que des définitions elles-mêmes historiques. Et celle que moi je vois de cette économie du passé dans le présent aujourd'hui que j'appelle mémoire, est qu'on vient d'en parler pendant une heure, est marquée par l'histoire et par l'histoire toute récente. Alors voilà ce qui nous différencie, c'est que je lui reproche, entre guillemets, ou du moins je lui objecte, que la vision qu'il a de cette mémoire n'est pas marquée par l'histoire elle-même, et qu'en même temps, il n'aurait pas cette approche si sa conception de la mémoire n'était pas marquée par, disons, la Shoah.
Absolument.
Donc, en fait, il y a une pression subreptice de l'histoire dans une pensée qui se veut extra-historique. Voilà, c'est ça que je lui dis. Et au fond, il a été très désarçonné par ces lieux de mémoire. D'ailleurs, il y consacre un chapitre à la fin de son livre, sous un titre qui dit tout, « Ces étranges lieux de mémoire ». Il a du mal avec cette notion. Il en voit à la fois l'intérêt, mais il la récuse philosophiquement. Et moi, je ne la justifie que historiquement. C'est-à-dire qu'elle permet de dire des choses que l'histoire traditionnelle ne permettrait pas de dire. De faire droit à des moments, des objets, des tas de choses que l'histoire traditionnelle, c'est son, ne permettrait pas d'aborder, c'est sa vertu heuristique, si j'ose dire, qui m'a séduit dans les lieux de mémoire, puisqu'elle est productrice d'histoire pour un historien.
Écoutez, Pierre-Nora, merci beaucoup. Donc, je renvoie nos auditeurs donc, à votre livre qui s'appelle « Présent, Nation, Mémoire ». Et si je puis me permettre de vous donner un conseil, juste un conseil de lecteur, je me demande juste s'il ne serait pas temps que, fidèle à ce que nous disions sur la vis et à l'amour que vous aviez de la vis, que vous, in fine, que vous rédigiez une histoire de France, quelque chose qui, d'une certaine façon, est la problématique impossible et autour de laquelle vous tournez avec ces lieux de mémoire qui essayent de le faire, sans le faire comme on le faisait avant, et peut-être de le reformuler autrement.
C'était ma... Je vous répondrai, cher monsieur,
vous en prie.
Par la phrase par laquelle commençait Le Goff dans son compte-rendu des lieux de mémoire. Ce n'est pas une histoire de France,
absolument.
Mais c'est l'histoire dont la France a besoin. Aujourd'hui besoin.
Absolument.
Je ne peux pas dire plus.
Non mais, voilà, restons-en là. Donc, je renvoie nos auditeurs à ce présent Nation Mémoire. Donc, et puis, nous attendons la suite, donc, qui est le troisième volume donc, sur Nation et République. Pierre Nora, merci.
Merci beaucoup à vous-même.